5, 4, 3, 2, unité, top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Le riz est plus évolué que nous. Et c'est pour ça qu'il a plus de gènes.
Celui qui avale une noix de coco a confiance en son anus.
La poésie qui est aussi une arme de libération.
Moi j'engage le tueur à gage.
C'est pas gaz de schiste pour rien.
Carrément à l'échelle du quartier, il y a une approche vraiment bioclimatique.
C'était un bordel musical pas possible.
Écoute ça.
Très beau, très esthétique et aussi assez terrifiant.
C'est une théorie, effectivement, qui est privilégiée par les historiens.
Sur des grosses bobines.
Qui permettent aux jeunes artistes de se situer et surtout de se structurer.
Cet échange Aimé Césaire contre une musique pour les Chibani.
Ici, on est des hackers, waouh, on a un oscilloscope.
Une appropriation et aussi dans une transformation de ces technologies.
Sur le chemin d'une société qui soit un peu plus apaisée.
L'Auberge Espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
À voir, à entendre, à toucher.
C'est quelque chose d'assez connu quand même dans le Sud.
Ouais, Divergence, on se sent bien, c'est pour ça qu'on revient.
Et oui, Divergence, on se sent bien, c'est pour ça qu'on revient. Le sommaire de cette Auberge Espagnole du mardi 4 février 2014 nous emmènera tout d'abord au salon Biotrace, qui a pour thème les biocapteurs de points défis technologiques pour le diagnostic de demain. Ça se déroule les 6 et 7 février à Montpellier. C'est Didier Monté, chercheur au CIRAD et président du comité scientifique de cette 9e édition du congrès, qui sera avec nous. Ensuite, on parlera de la 3e édition de la Fête des Lumières, qui va enflammer le quartier des Beaux-Arts de Montpellier ce 8 février, Ananda, Régie, photographe et Daniel Lemoigne de la librairie Livret nous éclaireront sur cette fête des Lumières. Et puis, Planquez vos grands-mères, Hag sort son 2e album. Il sera en concert ce vendredi à l'Up and Down. Il sera avec nous dans le studio. Et puis, enfin, nous fêterons les 13 ans du Subsonic, qui vous donne rendez-vous 3 jours durant entre le Black Sheep, l'Up and Down et ses propres locaux du Subsonic rue du Général Rieux pour 3 jours de fête des bridée.
Thank you.
Et c'est les Soil and Peep Sessions qui nous accompagnent avec ce titre Deep Inside qu'on pourrait traduire par tout au fond, profondément tout au fond. Et on va aller tout au fond des choses bien pour parler de ce congrès. On est en compagnie de Didier Monté qui est chercheur au CIRAD, vice-président du groupe de travail biotechnologie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et donc vous êtes une des chevilles ouvrières de cette 9e édition du congrès Biotrace, qui est porté par une association créée en novembre 2005 et dirigée par les étudiants du Master 2 Bio-Ingal du parcours DETEC Bio-Diagnostic et Traçabilité des Environnements Chimiques et Biologiques de l'Université Montpellier 2. 37 membres actifs à l'heure actuelle répartis entre le Master première année et deuxième année de cette association, dont l'objectif est de faire vivre la recherche et de sensibiliser les gens, d'informer aussi, notamment au travers de ce congrès dont c'est la 9e édition. Donc c'est déjà une association qui tourne bien.
Oui, tout à fait. Si on revient à l'historique, là, l'idée revient aux professeurs du master, qui sont Didier Touche et le professeur G. Allemand, qui sont maintenant des amis, puisque ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Pourquoi le CIRAD ? Parce que tout simplement, la première année, on a organisé ce congrès au CIRAD. Et donc, ce projet m'a plu. Ce projet qui met en jeu quand même le travail d'étudiants. Ces étudiants sont notés pour faire ce qu'ils font. Et on a été surpris par la qualité du travail de ces étudiants au départ. On peut conclure maintenant que la qualité était bonne, puisqu'on est à la 9e édition. Mmh. Cette édition, on l'a fait tourner dans les différentes amphis de l'université et du CIRAD depuis le début. Mmh.
Donc à travers la réalisation de ce congrès scientifique annuel, l'association a satisfait ses ambitions principales qui sont de rassembler des chercheurs et des ingénieurs scientifiques pour faire un état de l'art, on va dire, des avancées technologiques, tout en sensibilisant un large public sur des sujets d'actualité. C'est un congrès qui est accessible aussi à tout un chacun.
Oui, alors...
Même si les thématiques sont quand même relativement pointues.
Oui, c'est toujours assez pointu. Et en tant que président du comité d'organisation, je suis toujours surpris par la qualité des intervenants. Ces intervenants sont invités par les étudiants et pas du tout par les professeurs. On les aide un petit peu pour les orienter, mais c'est eux qui font tout. Par contre, les conférences seront des conférences assez pointues sur différents domaines qui vont tourner autour des nanotechnologies et des capteurs qui sont des capteurs ADN ou des capteurs aptamères, donc en utilisant des mots un petit peu compliqués que je vais essayer peut-être de vous expliquer après.
Voilà, justement, j'allais y venir. Parce que l'idée aussi, l'axe, c'est toujours d'aborder tout ça sur des sujets d'actualité. Alors, on peut dire qu'entre les nanobiotechnologies dans l'exploration du vivant, la détection de la présence de perturbateurs endocriniens, dont on parle beaucoup en ce moment, les besoins de la médecine, dont l'imagerie moléculaire de pathologie ou la recherche sur le cancer, mais aussi les besoins de l'agroalimentaire, dont on parle beaucoup aussi, et pas forcément toujours en bien. On est vraiment tout à fait dans l'actualité. Puis il y a aussi des sujets plus mystérieux comme les lignées cellulaires luminescentes et les récepteurs nucléaires recombinants, ou encore justement ces fameux aptacapteurs dont on ne sait pas forcément ce que c'est. Si on...
Effectivement, oui. Tout ça est bien compliqué. Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que le monde scientifique a besoin de capteurs rapides. Alors je vais vous donner l'exemple de l'agroalimentaire, puisque j'y travaille tous les jours depuis 35 ans. En agroalimentaire, si on voulait analyser toutes les choses qui intéressent maintenant le public, c'est-à-dire les bactéries pathogènes par exemple, les toxines, on est incapable de le faire à la vitesse où vont les flux alimentaires sur la planète. Si vous prenez par exemple des mandarines qui viennent du Maroc et qui sont vendues en Suède, ça se fait à une vitesse qui est très importante, puisque le temps de passage de mandarines, par exemple, sur la plateforme de Perpignan, est de 1 heure environ. Mmh. Et à 1 heure, il n'y a aucun scientifique qui est capable d'analyser quoi que ce soit. Donc on est obligé de passer par la création d'outils qui sont extrêmement rapides. Alors, pour l'instant, on n'y arrive pas. On se rapproche d'une vitesse qui va être de quelques heures d'analyse pour des pathogènes, par exemple. Alors pourquoi on parle de nanotechnologie ? Parce qu'on travaille sur des quantités qui sont infimes. Une bactérie, c'est tout petit. Ça a la taille de quelques micromètres. Mmh. Ce qu'on appelle les nanoparticules, c'est quelque chose qui tourne autour de cette grandeur. On va jusqu'à 100 micromètres à peu près. Alors le micromètre, c'est une mesure qui est le millionième du mètre, le millième du millimètre. Donc c'est des mesures qui sont extrêmement petites. Alors, on va distinguer deux choses là, dans le domaine de ces mesures-là. Il y a le domaine de la chimie, où on va mesurer par exemple des toxines, c'est des molécules chimiques, où on va mesurer dans le domaine de la biologie, c'est-à-dire des êtres vivants comme des bactéries, comme des moisissures toxinogènes. Alors, tout ce qui est bactéries, moisissures, on parle du monde de l'ADN. Mmh. L'ADN, c'est là où c'est la mémoire de ces organismes-là. Et dans cette mémoire, il y a en particulier des choses qui codent pour la production de toxines. Donc, si on arrive à identifier sur une bactérie, par exemple, quel est le gène qui code la toxine, on peut très bien isoler cette partie de l'ADN et le mettre sur un capteur électronique. Et lorsque ce capteur, cette petite partie d'ADN reconnaîtra son homologue, il y aura un signal qui va aller vers l'appareil électronique. Et donc un signal qui peut être un signal lumineux, qui peut être un signal électrique, tout ça, on sait le faire. Mmh. Et là, on parle vraiment de nanotechnologie. Et là, le signal, lui, se fait en vitesse réelle. Par contre, là, il faut quand même isoler l'ADN de la bactérie. Il faut extraire ces ADN qui sont des toutes petites particules et après pouvoir les mesurer. La mesure pose pas de problème, en fait.
Alors là, on est vraiment au croisement de trois disciplines, hein, la physique, les maths et la chimie, puisqu'on se rend compte que les dernières avancées en recherche sur la physique quantique rejoignent aussi certaines propriétés dans le monde du vivant, sur des interactions faibles entre les atomes qui constituent les molécules, etc. Donc, en ce moment, c'est assez excitant de lire la presse scientifique, parce qu'on se rend compte que finalement, toutes ces disciplines se croisent peut-être que d'une façon dont elles ne s'étaient jamais croisées auparavant.
Ah oui, c'est complètement nouveau pour les scientifiques. Là, on ne peut plus travailler seul. Donc si vous voulez construire par exemple une puce qui va détecter des bactéries, vous êtes obligé de travailler avec des spécialistes de l'ADN, des spécialistes de la microbiologie, des spécialistes de la chimie et puis des spécialistes aussi de l'électronique. De l'électronique et aussi souvent de l'optique. Mmh. Donc ça fait des sujets super intéressants, évidemment, les chercheurs se régalent là-dedans, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre par contre.
Mmh. Alors ce congrès va se dérouler, j'imagine, à l'université ?
Oui, ça va se faire à l'université Montpellier 2, dans l'amphi de Polytech. Nous espérons avoir autour d'une centaine de participants, comme tous les ans.
Voilà, ça démarre ce jeudi 6 février avec les traditionnels discours de bienvenue du président de l'association, de madame le maire de Montpellier, des différents responsables de l'université. Et puis, on parlera nanomatériaux pour le design de biocapteurs. Ce sera avec Nicole Jaffrezic de l'INSERM. Des nanotechnologies constituent-elles une révolution dans l'exploration du vivant ? Donc, une question sur les enjeux de tout ça avec monsieur Didier Touche de l'UM2. On parlera aussi des besoins et des demandes en agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire, d'une part pour, on va dire, sécuriser le comportement des aliments, mais j'imagine que ça intéresse aussi les entreprises de l'agroalimentaire qui pourraient y voir des moyens de toujours optimiser la productivité et le rendement sonnant et trébuchant de leurs produits. On parlera aussi de ces fameux aptacapteurs en fin de matinée. Qu'est-ce qu'un aptacapteur?
Alors, un aptacapteur, c'est une fraction d'ADN, c'est un tout petit bout d'ADN qui va être composé de 7 bases, à peu près 7-8 bases, et qui en 3 dimensions va avoir la conformation qui permet de capter une toxine, par exemple. Mm-hmm. Donc si vous captez cette toxine là-dessus, et de façon spécifique évidemment, au milieu d'un magma alimentaire, d'un magma de molécules, ça va capter spécifiquement, et puis si on relie cet aptacapteur à un système électronique, on pourrait, hein, puisqu'on en est au stade du test, capter des mycotoxines dans des aliments.
L'après-midi, ce sera le temps de faire un tour des applications existantes autour de ces biocapteurs, qu'il s'agisse de la conférence que donnera Catherine Alix Panabière sur une biopsie liquide du cancer à partir de cellules tumorales qui circulent. Je traduis le titre de la conférence qui est en anglais. On parlera aussi de biocapteurs marins pour la détection de biotoxines algales, en l'occurrence l'acide domoïque. Par rapport à la mer aussi, on parle beaucoup de nanomatériaux en ce qui concerne la désalinisation de l'eau de mer. Et puis, il y aura aussi cette conférence à 15h45, toujours le 6, sur les lignées cellulaires luminescentes et les récepteurs nucléaires recombinants. Détection de la présence de perturbateurs endocriniens dans les matrices biologiques. Là, on en parle beaucoup de ces perturbateurs endocriniens suite à l'utilisation massive des produits phytosanitaires et des maladies dont souffrent les agriculteurs quelques dizaines d'années plus tard. Et puis, des défis inhérents à la miniaturisation de biosenseurs micro-électromécaniques résonnants. Alors là aussi, le titre est en anglais, on comprend bien que c'est très pointu. Et puis le vendredi 7, ça va se poursuivre autour des techniques innovantes le matin et puis des diagnostics de demain l'après-midi. Donc en 48 heures, il va y avoir beaucoup de communication. J'imagine qu'à chaque édition du congrès, il y a peut-être des actes de ce congrès qui sont publiés ou les conférences, peut-être les présentations sont mises en ligne.
Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt la deuxième, mais les conférences en ligne. Parce que publier des actes, c'est assez complexe. Hein. Puis quand les étudiants ont fini leur travail, on ne leur demande pas plus encore. C'est encore beaucoup de travail. Et je voudrais dire quelque chose sur les perturbateurs, là, parce qu'on est en train de vivre une époque assez intéressante à ce niveau-là. Jusqu'à présent, on travaillait que sur la toxicité des produits alimentaires, en fait, des additifs, des choses comme ça. Et c'était relativement facile à faire. On prenait des rats, on faisait manger à des rats des quantités croissantes de produits, et puis à un moment donné, ils mouraient par la toxicité du produit. Ça, c'est ce qu'on appelle la toxicologie.
Et puis, c'était pas dérangeant parce que ça respectait le fameux proverbe qui dit que c'est la quantité qui fait le poison.
Voilà. On était dans quelque chose de très simple et de très facile à expliquer. Et avec cette idée de perturbateur endocrinien, en fait, on ne parle plus de toxicité, on parle de perturbation de cellules vivantes. Donc là, on travaille plus sur des êtres vivants, mais sur des cellules qui sont vivantes. Et on perturbe un métabolisme. Donc perturber, on ne sait pas ce que ça veut dire en termes de toxicologie. Est-ce que perturber, c'est bien ? Est-ce que perturber, c'est pas bien ? Enfin, souvent, c'est pas bien, d'ailleurs.
Oui.
Mais vous mangez du sucre, par exemple, vous allez vous perturber.
Tout à fait.
Et même quelquefois, gravement. Donc, toute l'Union européenne, maintenant, est en train de réfléchir à comment mesurer ces effets de molécules en infime quantité dans le métabolisme, en mélange, très souvent en mélange, parce que si vous mangez des extraits de pesticides, vous pouvez en manger des dizaines différentes par jour, à des quantités qui sont extrêmement faibles, qui ne sont plus du tout au niveau toxicologie, et qui peuvent créer quelque chose sur votre métabolisme. Alors, on est presque sûr que ça crée quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le mesurer. Mmh. Et donc, tous les sujets, maintenant, du futur vont porter là-dessus.
Tout à fait, donc c'est assez préoccupant actuellement. Que dire de plus sur ce congrès dont on rappelle qu'il est ouvert au public, même si, on l'a vu, les thématiques sont assez précises, si ce n'est qu'on peut le retrouver sur www.congrès-biotrace.org, là où on retrouve le programme. C'est sur ce site aussi que les communications qui auront été faites seront mises en ligne ?
Certainement, oui, c'est toujours sur le site. Hein. Là, actuellement, on n'a pas pris la décision de les mettre. Mais quand la décision sera prise, ça sera sur le site, oui.
Quelle perspective sur toutes ces technologies à 5 ans, 10 ans ? Parce qu'on se rend compte que tout ça bouge très, 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 très vite. Chaque jour, on peut lire des avancées dans la recherche qui sont assez surprenantes, compte tenu justement de ce croisement des disciplines dont on parlait tout à l'heure. Tout ça bouge beaucoup, puis ça touche aussi aux questions, on va dire, d'éthique et de politique. On voit bien la frilosité de certaines agences. Alors vous êtes en plein dans l'ANSES aussi, donc on parle souvent de qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour préparer ce qu'on n'avait pas découvert à l'époque et qu'on a découvert aujourd'hui, et comment préparer demain. C'est un sacré bazar finalement d'arriver à concilier la conscience politique des élus, leur volonté, les autorités, la régulation et puis la recherche.
Oui. Donc là, vous posez deux questions. Et la première question, c'est au niveau technique, ce qu'on peut faire à l'heure actuelle est assez extraordinaire, hein, puisqu'on voit sortir des puces maintenant qui sont capables, moi j'en ai vu, qui ont la taille d'un téléphone portable et qui sont capables d'analyser 70 bactéries sur une puce extrêmement petite, qui doit faire un centimètre de côté. On sait qu'il y a des gens qui développent ce genre de puces avec 10 000 points sur un centimètre, on va dire. Donc, il serait capable d'analyser 10 000 choses sur un centimètre. Le problème reste l'extraction quand même. Si vous voulez analyser une vache, il faudra quand même la faire rentrer dans le téléphone portable. Donc, c'est là qu'en fait que se posent les problèmes. Ça paraît tout bête, mais c'est des problèmes de chimie et de biochimie assez basiques et souvent qui sont difficiles à traiter. Ce qu'on appelle le microfluidique en termes techniques. Donc, il faut créer des petits tuyaux, des petites, ce qu'on appelle des PCR, qui sont capables de multiplier les brins d'ADN sur des volumes extrêmement petits. Alors, tout ça commence à exister, on le voit sortir. Les applications ne sont pas si évidentes, mais on y arrive. Hein. C'est une histoire de jours, de mois, d'années, je ne sais pas trop, mais on le voit sortir. Après, en termes politiques, on vit une époque aussi assez formidable. On vit l'époque de l'information, ça vous êtes au courant. Et on a, depuis 2005, une obligation de renseigner le public à chaque fois qu'il y a un problème sanitaire. Ça, c'est la loi européenne qui le dit. Donc, à chaque fois qu'on renseigne les gens sur un problème sanitaire, ça fait peur. Et ça fait peur, évidemment, aux politiques, qui sont les représentants du peuple. Et donc,
quand fait peur aussi aux industriels et aux lobbies qui ont quelque chose à y perdre.
Alors, l'industriel, c'est toujours le gros perdant là-dedans, parce que le moindre problème sanitaire qui peut lui arriver passe à la télévision et à la radio. Donc ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur l'industriel et sur le personnel de l'industrie en question. Par contre, pour le consommateur, on va vers une sûreté qui est un peu plus sérieuse. Alors, nous, on vit en tant qu'experts, on vit dans cette perturbation sociale. Les gens sont de plus en plus informés. On n'est pas sûr qu'ils soient bien informés, par contre. Et quand on reçoit des dossiers, on est obligé de les étudier. Alors moi, je travaille particulièrement sur les OGM et sur les micro-organismes OGM. Ce n'est pas les plantes OGM. Je connais assez bien quand même le secteur. Et là, on est dans des produits qu'on soupçonnerait peut-être être dangereux. Alors, vous voyez, soupçonnerait peut-être être dangereux. Donc, je ne mets que des choses qui ne sont pas sûres. Actuellement, on est presque sûr qu'il n'y a pas de danger sur les OGM qui sont sur le marché, hein, sinon ils n'auraient pas été autorisés. Par contre, on essaye de créer des méthodes qui permettraient d'identifier le moindre problème sur la santé du consommateur. Et là, on n'est plus dans la toxicité dont je vous parlais tout à l'heure, on est dans la
perturbation.
Dans la perturbation éventuelle. Et ça, on ne sait pas mesurer. Donc il y a des grandes discussions au niveau expertise, au niveau européen, entre les spécialistes, pour savoir s'il faut tester sur des rats, sur des lapins, si c'est 90 jours ou 2 ans. Ça, vous avez vu des gros trucs l'année dernière à la télévision là-dessus.
Serralini, etc.
Voilà, on en faisait partie. Moi, j'étais dans les experts qui ont expertisé le dossier Serralini. Donc c'est particulièrement intéressant, mais à l'heure qu'il est, on n'est pas capable de donner une solution à 100% sur la sécurité de quoi que ce soit. D'ailleurs, je parle d'OGM, mais ça peut être un colorant, ça peut être un additif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, toutes les nouveaux produits, les nouvelles formulations passent en expertise. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors qu'aux États-Unis, ils vont faire plutôt l'inverse. Ils vont mettre sur le marché et regarder après les effets. Bon, ils ne sont quand même pas fous complètement. Ils ont aussi leurs experts. Mais en Europe, on a choisi la liste positive.
Ceci étant dit, il y a des tas de choses qui ont été mises sur le marché sans qu'on ait matériellement, sans que ce soit vraiment possible de les étudier. Je pense à des études épidémiologiques à très long terme qu'il aurait peut-être fallu mener sur les téléphones portables bien avant de les mettre sur le marché, mais on se rend bien compte que les premières études sont sorties 10 ans après que les téléphones soient contre les oreilles des gens. Donc l'effet thermique à l'époque, il était assez fort puisque les téléphones étaient très puissants. On arrive à ce qui rayonne de moins en moins aujourd'hui, mais le marché n'aurait pas supporté qu'on dise on va attendre 10 ans, on va étudier vos téléphones, puis après on va voir si on les met sur le marché. Donc c'est un petit peu la même chose dans l'agroalimentaire, on a l'impression quand même qu'on met des choses sur le marché, et puis après il appartiendra aux instances publiques de faire les études qui conviennent, hein, puisque c'est devenu monnaie courante, que ce soit les labos eux-mêmes qui paient les soi-disant études d'innocuité de leurs produits, ce qui, même si tout le monde sait qu'il y a un conflit d'intérêts, ça gêne personne aujourd'hui, quoi.
Ouais, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Avant, il n'y avait pas de législation. Si on mettait sur le marché ce qu'on voulait. Par exemple, si vous prenez le caramel, si on faisait passer au caramel les tests que l'on fait passer à vos OGM maintenant, on n'aurait pas de caramel sur le marché. Ce serait pareil pour la voiture aussi, qui un outil de mort, hein, même si ça réduit beaucoup. Or que dans l'alimentaire, on ne tue quasiment plus personne, hein, par toxicité aiguë. Donc là, les travaux se font sur la toxicité pas aiguë, c'est-à-dire sur des produits qui pourraient provoquer le cancer, des maladies métaboliques, des choses beaucoup plus complexes, qui sont
plus
pas faciles à expliquer, et sur la durée, voilà. Y compris sur la descendance, maintenant, on travaille sur des choses comme ça. Donc c'est pas simple du tout à résoudre. Donc au niveau réglementaire, maintenant, on a les outils qui permettent de le faire. Donc on a des règlements, on a des normes qui sont assez sérieuses, qui sont discutées quand même au niveau international, parce que les normes sont créées par le Codex Alimentarius, qui est une émanation multinationale. Il y a quasiment tous les pays du monde qui en font partie. Donc l'expertise est meilleure. On connaît la toxicité de quasiment toutes les molécules maintenant, enfin toutes les molécules alimentaires dans mon cas. Moi, je ne les connais pas toutes, mais enfin, on a les documents qui permettent de le savoir. Et donc, on a des avancées qui sont notables. On a ces avancées sur l'information qui sont nouvelles. On a donc des avancées sur la connaissance. Donc, tout ça fait qu'on a une meilleure sécurité. Après, les inconnus, il y en a encore beaucoup. Hein, quand vous mélangez 10 additifs dans un produit alimentaire, quand vous les passez au four, qu'est-ce que ça donne?
Bon, c'est plus les mêmes à l'arrivée.
C'est très différent à l'arrivée.
Tout à fait. Le temps, qui nous est imparti largement dépassé. Didier Monté, on rappelle que vous êtes président du comité scientifique de cette 9e édition du congrès Biotrace, qui, je le rappelle, se déroulera à l'amphi Polytech de la Fac de Sciences les 6 et 7 février 2014 à Montpellier. www.congrès-biotrace.org pour plus de renseignements. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu. Et de pouvoir plus...
Help me make my thoughts glide. Stay inebriated through music, I'm off my rock. I'm rocking into the depths of the lost eye. Jumping off a cliff in the faith, I'm a fall guy. Never falling, knowing the heavens we all fly. Fourth dimension rocket ships telling you all why. Wake up from your slumber, my children, it's all lies. Money just like everything else, it all dies. The self is lost and it's still. Can I get a dime sack to help me focus on wealth? Not material wealth, cause true wealth resides.
Et voilà, c'est Gift of Gab qui nous accompagne avec Way of the Light. Et effectivement, on va en parler de lumière, puisque ce 8 février, c'est la 3e édition de la fête des Lumières, quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Pour en parler avec nous, Alanda Régie et Daniel Lemoigne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le premier photographe, le deuxième tient la librairie de Livret. Et sont tous les deux, évidemment, des gens du quartier des Beaux-Arts. Peut-être revenir un petit peu. Alors, la fête des Lumières, on avait connu ça il y a déjà quelques années, mais c'était plutôt vers Figuerolles. Et donc, depuis 3 ans, le quartier des Beaux-Arts organise sa fête des Lumières. C'est ça ?
Oui, tout à fait. Depuis 3 ans, on organise une fête des Lumières dans le quartier des Beaux-Arts. Et c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs à Montpellier. Il y a eu Figuerolles, il y a eu Rue de la Méditerranée aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Tout à fait. Il y a eu des trucs très sympas qui sont passés par là-bas. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de fête des Lumières qui soit vraiment installée dans un quartier dans la durée sur Montpellier. Mais à chaque fois, il y a eu des bonnes idées. Et là, dans le quartier des Beaux-Arts, on essaye de renouer avec ce rendez-vous des Lumières de l'hiver.
Mmh. Alors, est-ce que les précédents quartiers qui ont organisé leur fête de lumière participent aussi, suivent un petit peu le train de la fête de lumière, ou est-ce que c'est chacun qui fait son truc
Alors, il y a une personne qui était... très impliqué dans la fête des Lumières de la fête
depuis le début
du début, qui était Thierry Bellone, qui l'organisait à Rue de la Méditerranée, qui nous aide d'un point de vue technique et logistique. Et sinon, après, pas particulièrement de gens qui nous suivent, qui suivent depuis le début, je crois, ou peut-être, mais sans que je le sache.
Alors le programme, ça va démarrer à 17h30, parce que évidemment la fête des Lumières, ça se passe toujours mieux quand il fait sombre. Et ça va démarrer par une descente au flambeau, rendez-vous au stade du Père Prévost, rue de la Cavalerie. Le stade du Père Prévost dont on avait parlé, mais par rapport au problème immobilier qui est rattaché, un départ sur un lieu un petit peu symbolique.
Oui, c'est devenu un lieu symbolique du quartier par la force des choses, donc... C'est très pratique pour rassembler tout le monde, se préparer. Mmh, mmh.
Une fête des Lumières auquel vous participiez déjà les deux premières éditions aux Beaux-Arts?
Oui, je participais, je prêtais mes vitrines pour des installations, installations d'artistes. Mmh. Donc il y en aura peut-être cette année, ce n'est pas... Les artistes choisiront, proposent tout un tas de plusieurs lieux possibles, plusieurs configurations, et ils vont arriver 2 jours avant et choisiront le lieu qui conviendra le mieux à leur installation.
Dans le quartier, tout le monde joue le jeu de la fête des Lumières, disant « Ah tiens, moi je peux ouvrir mon garage, moi je peux faire ceci, faire cela » ou est-ce que vous êtes un petit groupe d'activistes lumineux ?
On essaye d'être un petit groupe d'activistes qui essaye de faire bouger les choses, enfin bouger les gens surtout. Donc l'idée cette année, effectivement, c'est de sensibiliser les gens du quartier pour qu'ils participent. Donc on est passé un peu taper aux portes des gens pour leur donner des bougies, pour qu'ils mettent des bougies à leurs fenêtres et les inciter à participer et à illuminer le quartier. Donc d'où le nom « Fête des Lumières à l'impératif ».
Voilà, fête des lumières et non pas fête de la lumière. Accompagné en musique par la fanfare Fanfarov, la descente au flambeau donc qui partira à 17h30 du stade du Père Prévost, eh bien va déambuler jusqu'à quel endroit ?
Jusqu'à la place des Beaux-Arts.
Jusqu'à la place des Beaux-Arts,
ce sera le lieu central, la place des Beaux-Arts, le prolongement, l'esplanade.
Voilà. Alors, on précise que comme ça va se passer le soir, eh bien, il faudra se couvrir, car les nuits sont fraîches ces jours-ci. Mais vous avez pensé à tout, puisque jusqu'à 00h30, eh bien, il y aura des bras zéros qui s'enflammeront à partir de 18h45 et qui seront présents sur la place, histoire que les gens puissent se mettre autour et se réchauffer leur petite mimine transie par le froid.
Tout à fait. On a récupéré des vieux bidons en métal qu'on a confiés à quelqu'un qui nous a décoré et optimisé pour faire des jolis braseros. Donc, symboliquement, les enfants, et pas que les enfants, à la fin de la descente au flambeau, jetteront leurs flambeaux dans les bidons pour les enflammer. Mmh. Et de là, ils brûleront jusqu'à tard le soir pour faire des points chauds qui seront agréables pour se réconforter un peu de temps en temps quand il fera un peu froid, entre deux vins chauds et un mojito.
Alors ça, là, c'est jusqu'à 00h30. Est-ce que vous avez une heure limite ? Parce que je sais qu'il y a des précédentes éditions, notamment rue de la Méditerranée, où on avait fermé la rue de la Méditerranée, donc autorisation de la municipalité de bloquer certaines rues, etc. Est-ce que là, c'est le cas ou est-ce qu'il n'y a pas de modification du plan de circulation autour de cette fête des Lumières ?
S'il y a une demande d'autorisation d'occupation du public, évidemment, et fermeture de certaines rues, plus prêt de matériel par la mairie, qui viendra récupérer son matériel aux alentours de 00h30, 01h. Donc, effectivement, il y a cette deadline qui est le matériel à rendre et les rues à rouvrir.
À 19h, ce sera Cartoons Circus. C'est un projet emmené par Roberto Tricari qui alliera ses deux passions, musique et cinéma, pour embarquer petits et grands dans l'univers des cartoons des années 20 à 30 avec ce spectacle en duo, Cartoons Circus. Ça, c'est donc projection et musique live en même temps, c'est ça ?
Tout à fait. C'est donc Roberto Tricari et Jean Mac qui l'accompagnera au sax, Roberto Tricari au piano, qui vont en direct illustrer musicalement des films muets, donc des cartoons. Et donc, ça va durer ça entre trois quarts d'heure et une heure, en fonction de plusieurs choses. Et c'est donc des vieux films très sympathiques, qui vont plaire aux enfants, évidemment, mais aux grands, évidemment, aussi, parce que c'est des bons cartoons de l'époque, et qui seront donc accompagnés en direct par ces deux musiciens.
Et puis vers 20h, ce sera lâcher de lanterne pendant qu'une chorale du quartier chantera. Donc là, vous allez faire un lâcher de lanterne. Ça va se passer comment ? C'est une lanterne en papier qui s'élève par la chaleur ou...
C'est les fameuses lanternes dites lanternes thaïlandaises ou lanternes volantes, suivant l'appellation. Donc il y a un petit foyer qu'on allume. Et après, on voit ces boules de papier s'envoler dans le ciel avec du feu à l'intérieur. Alors, ça peut surprendre un peu, mais il n'y a aucun risque. Ça ne peut pas mettre le feu. Et c'est très joli à voir ces nuages de lanternes qui s'envolent. Et tout ça sera accompagné effectivement par la chorale, une chorale du quartier, Jazz à tous les étages, qui va chanter des classiques de chansons françaises, si je ne me trompe pas, pendant cette cérémonie de décollage de lanterne.
Et puis à 20h30, ce sera non pas un flash mob, mais un flash molle. Surprenant, décalé, déjanté, le flash molle est un concept qui demande la participation du public. Mais quel est donc ce concept ?
C'est des choses, toi, Daniel, sur le
flash molle ? Non, on n'a pas la spécialiste du flash molle.
La spécialiste en la personne de Mélanie et ses acolytes n'est pas là. Mais en gros, le flash molle, évidemment, ça ressemble au flash mob. Donc tout le monde... Vous connaissez peut-être la flash mob, qui est une performance collective dans le domaine public. Donc là, c'est un peu dans cet esprit-là, à savoir qu'il y aura trois ou quatre animateurs qui vont animer cette performance collective et participative. donc pour laquelle une trentaine de personnes du public seront invitées à prendre place à cette activité, à s'asseoir et à faire ce qu'on leur dira de faire dans une ambiance un peu déjantée, un peu théâtrale et comique, je pense. Mmh.
Donc ça, ce sera à 20h30 et puis à 21h30, c'est la fanfare OV qui reviendra eh bien, avec ses musiques influencées par les musiques d'Europe centrale avec cuivre et autres instruments jusqu'à 22h45, heure à laquelle le DJ Audio Sport viendra proposer un set soul groove funk bossa nova et autres, et j'imagine tout ça en lumière. Quelle superficie ça prend sur le quartier des Beaux-Arts? On va dire les endroits qui ont déjà été ciblés pour être équipés d'éclairages tous plus originaux les uns que les autres.
Alors pour cette troisième édition, malheureusement, on n'a pas encore les réseaux matériels et autres et financiers pour avoir une grosse implantation. Donc on va rester modeste. On va être surtout centralisé sur la place et le début de l'esplanade de la musique. Et on a quelques installations qui seront en fixe avec des projections de vidéos et de photos. Et quelques ateliers aussi interactifs. Donc, il y aura par exemple plusieurs espaces d'ombre chinoise. Ça avait bien marché l'année dernière. Mm-hmm. Donc, il y aura trois panneaux lumineux qui permettront déjà de construire un peu l'architecture de l'espace. Et les gens pourront, de façon autonome, aller faire un peu les idiots derrière ce truc-là. Et il y aura également un atelier de light painting.
Ah, d'accord.
Donc, en direct, les gens seront light paintés et vidéo projetés pour voir le résultat direct.
Donc, light painting, c'est quoi? On peint les gens avec des coloris qui réagissent à la lumière noire ou on les peint avec des couches de diodes électroluminescentes? Mystère.
Le light painting, comme son nom l'indique, entre guillemets, c'est peindre avec la lumière.
D'accord.
Donc l'idée, c'est un travail de photographie avec un appareil qui est sur un trépied, un temps de pause long. Et pendant ce temps de pause long, on dessine dans l'image avec des sources de lumière pour créer des dessins autour des personnages qui seront là. On peut peindre sur eux, on peut peindre autour d'eux, Après, ça, c'est assez varié et vaste ce qu'on peut faire avec ce genre de truc qui donne un rendu esthétique assez sympa. Et surtout, moi, ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est que ça soit interactif avec le public qui est là, qui participe, qui donne des idées, qui fait le con avec ses lumières, etc. Quoi.
Mmh. Et du coup, l'appareil en pose B, pendant qu'on fait bouger les petites lumières, etc., est-ce que le résultat va être immédiatement vidéo projeté ou...
Oui, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est on fait la photo et direct, instantanément, on la vidéo projette. Comme ça, les gens, ça fait une animation lumineuse dans la rue et surtout le résultat direct des gens qui ont fait leur truc et qui pourront ensuite aller les récupérer sur internet parce qu'ils voudront sûrement en garder un souvenir.
Absolument, ce qui serait tout à fait naturel. On retrouve toutes ces informations sur http://lumibozart.blogspot.fr lumibozart. Et puis que dire de plus, sinon vous souhaitez plein d'influence pour cette troisième édition de la Fête des Lumières quartier des Beaux-Arts. Je le rappelle, ça démarre en fin d'après-midi, ce sera donc à 17h30, il retrouve son petit papier, le garçon, oui, il le retrouve. À 17h30, départ de la descente au flambeau, rendez-vous au stade du Père Prévost, rue de la Cavalerie. Et puis le reste se passera donc place des Beaux-Arts, oui.
Oui, et donc je voulais, pour finir quand même avant qu'on quitte, rappeler que donc cette manifestation culturelle est organisée par l'association de quartier de Beaux-Arts Pierre Rouge.
Oui,
et par tous les habitants du quartier motivés pour faire vivre ce quartier.
Il y a aussi il y a des écoles, il y a la maison de quartier Frédéric Chopin.
Il y a plusieurs énergies qui se...
Tout le monde a répondu présent et ce sera une excellente fête des Lumières. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Divergence pour nous donner ces détails. Et puis c'est vendredi soir. C'est samedi, c'est le 8, c'est bien ça? Samedi 8, ne vous trompez pas. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.
Tout de suite, on part avec Hag qui sera vendredi sur la scène du Up and Down.
L'ouverture d'un procès hors du commun, un adolescent sans histoire de 16 ans présenté comme un fils modèle avait tué ses deux parents et ses deux petits frères.
Meurtre d'une jeune femme de 26 ans retrouvée derrière le canapé de son appartement, d'une fillette de 5 ans découverte dans le congélateur, tandis que dans le réfrigérateur se trouvait le corps sans vie de la fille du couple, un bébé de 3 mois.
Restez avec nous, à suivre, régime, attention, danger.
This world is crazy, but I'm a part of!
Et oui, ce monde est un monde de tarés, mais nous en faisons partie. C'est un petit peu la leçon à retenir de ce début du deuxième opus de Hag qui est avec nous dans les studios. Bonjour Hag.
Bonjour.
Eh ben, on est ravis. Deuxième opus, alors on se souvient, le premier, toujours dans ce style de mélange des faits divers les plus abominables que la société des hommes peut nous offrir. Et puis de cette musique un petit peu rythmique, énervée, que tu produis en solo, donc, rappelons-le, des fois dans le noir, souvent dans le noir, des fois dans le noir en plein jour, grâce à une cagoule ou ce genre d'ustensile. Je pensais au quartier Saint-Roch où tu avais performé, comme on dit. Combien de temps as-tu travaillé dans ta petite maison perdue dans la campagne pour ce deuxième opus?
Alors, j'habite en plein centre-ville et ça, ça prend beaucoup de temps en fait. L'air de rien, ça m'a pris, je sais pas, déjà pour créer les morceaux, ça prend énormément de temps. Pour enregistrer, ça a été le fouillis. Pour mixer, j'ai fait appel à un ami, c'était un peu compliqué. Pour le mastering, j'ai eu Pierre de la Canale qui m'a prêté main forte. Mais tout ça, ça prend énormément de temps. Mais ce temps-là, pour l'instant, il est pas palpable. C'est de la musique qui est virtuelle à l'heure d'aujourd'hui.
Alors, elle est virtuelle, elle est sur le net. Hein. On retrouve sur le site de Divergence tous les petits liens pour pouvoir aller jeter une oreille. Nonobstant, le premier opus avait fait l'objet de moult soins quant à la matérialisation de cette musique. On se souvient du vinyle, la pochette qui change de couleur, etc. Une grosse aventure que tu avais financée sur une levée Kiss Kiss Bank Bank, pour ne pas les citer. Là, c'est tout frais, tout chaud. La partie matérialisation, ça pourra venir ultérieurement. Mais si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que ça vient de sortir et puis parce que tu es à l'Up and Down ce 7 février.
Alors le 7 février, on commence une mini tournée avec un personnage aussi qui est un one-man show un peu fou, qui fait un genre de blues un peu, qui soigne le blues avec des sons électro et qui s'appelle Deadwood. Donc là, on va partir quelques dates ensemble et on va attaquer par le 7 février, donc ce vendredi à l'Up and Down.
À l'Up and Down, donc chacun votre tour. Vous avez des répertoires assez complémentaires?
Je sais pas ce que ça veut dire.
Votre musique se ressemble un petit peu, enfin le fait d'être déjà, c'est un one man show, dans les deux cas.
Bah, à part qu'on est tout le seul, ouais, non, en fait, parce que lui joue de la guitare, moi je joue de la basse. Lui, c'est plus tendance blues et ça sent des fois un peu Tom Waits, des trucs bizarres comme ça, avec des sons vraiment électro et qui percutent. Après, il joue à la lumière, joue dans le noir, donc je vois pas les points communs qu'on a. On a deux pieds par contre et deux mains, et là par contre, on va.
Et je vous jouais des cordes tous les deux, j'imagine.
Voilà, c'est ça.
Ah, ça fait un autre point commun. En tout cas, vous serez là ce 7. Alors, le fait que dans ton dernier opus, il y ait un morceau qui s'appelle Deadwood, ça n'a rien à voir ou c'est une dédicace à lui?
Bah, c'est pour délirer. Là, Deadwood, en fait, moi j'ai accroché avec lui en faisant un concert au Black Sheep et on n'a pas beaucoup discuté, mais il y a un feeling qui est passé comme ça. Il est, bon, contrairement à moi, il est mou. Et bon, après, le point comment qu'on a, c'est qu'on est tous les deux bordéliques. Voilà, et après, il y avait ce morceau-là qui sonnait un peu bizarre, comme ça. Je me suis dit, tiens, ça fait penser un peu à Deadwood, et je l'ai appelé Deadwood pour faire plaisir. Voilà, comme un autre morceau qui s'appelle Nils, où j'ai invité un copain qui s'appelle Nils, qui tient la Mad Gallery, et qu'on a fait un bœuf une fois en concert, et je trouvais ça sympa, et je l'ai enregistré comme ça.
Alors toujours un petit peu le même modus operandi, pour employer des mots latins, ça fait toujours classe. Toujours le même modus operandi, disais-je.
Oui,
à savoir aller piocher. Alors là, c'était un carnage familial. D'autres fois, c'est les personnes âgées qui sont abandonnées dans des mouroirs ou etc. Finalement, derrière cette musique un peu sauvage, il y a quand même aussi une façon assez artistique et
et qui ne revendique rien, puisque Hague ne revendique rien. Néanmoins, de mettre en exergue des choses qui sont tout à fait dénonçables en elles-mêmes, quoi.
Bah ouais, c'est toujours la même chose, en fait. J'ai pas envie de... Mon opinion, elle intéresse personne et j'ai pas envie de la donner parce que je m'en moque. Mais après, je récupère toujours ce genre d'expression de choses qui se passent dans la vie qui sont...
Folles,
aberrantes et incohérentes quand même. Et je fais que les mettre en avant. Après, si les gens réagissent par rapport à ça ou s'ils se posent des questions, tant mieux. Ou pas, moi, je peux faire changer la mentalité des gens. Mais quand même, on vit dans un monde qui est sclérosé et qui est rongé jusqu'à la moelle, quoi.
Mmh. Où on passe sans état d'âme aucun du carnage familial au conseil minceur pour l'été prochain.
Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça en fait là. Enfin, l'histoire de Tuc Beapo, le morceau qu'on a écouté, c'est quelqu'un qui se réveille le matin, il allume sa radio, c'est un peu il entend le carnage qui se passe dans le monde et après il va passer sa journée normalement avec des fois des informations un peu dures, des fois tout va bien, etc. Des fois, tiens, t'as une voiture, t'auras la femme, c'est une publicité qui peut faire frémir aujourd'hui. Et ce qui est juste, hein, mais. Et voilà, et après, malgré toutes ces horreurs, il rentre chez lui le soir et à sa femme qui l'embrasse, qui lui dit bonne nuit mon amour, et c'est parti pour le lendemain.
Voilà, et comme il le dit en se réveillant, quel monde de merde, et pourtant on en fait partie.
Voilà.
Donc quelque part, c'est aussi une façon de dire que on ne peut que en faire partie, donc il faut faire des trucs pour avancer, quoi, pour faire avancer les choses aussi.
Ouais, voilà, après c'est mon opinion, mais là, mon opinion, j'ai pas envie de la donner parce que j'ai un micro et dire des trucs, mais bon, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que si on est dans un pays où ça va, tout va bien, enfin, où ça va, tout va bien, entre parenthèses, on se lève le matin, on va pas se faire tuer, etc., la paix que nous on vit aujourd'hui, elle est payée au prix du sang qui se passe dans les autres pays, quoi. Donc notre paix, c'est des guerres ailleurs, quoi, que nous on crée. Et donc en faisant rien aussi, je prends parti à tout ça, quoi. Dans l'idée. Bon appétit si vous écoutez.
En tout cas, ce sera ce 7 février, c'est vendredi.
Oui.
Vendredi, c'est à l'Up and Down à partir de 21h à peu près.
Oui.
Oui, oui, c'est parfait. Et on peut rappeler le lien internet où on peut retrouver ton dernier opus.
Ah,
qui s'appelle Freak, d'ailleurs.
C'est Freak.
Disons-le. Freak, une référence au film de Browning ou au premier album de Frank Zappa.
Ah, je savais que t'allais sortir ça. En fait, non, réellement, non. En fait, c'est un jeu de mots pourri entre français et anglais parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Freak, justement. Donc, Freak, ça veut dire monstre. Et, ouais. Et le premier morceau, ça parle du fric, en fait, l'argent. Et donc, c'est un peu cette idée de l'humain qui fait que vivre et penser à travers l'argent et qui se transformait en monstre quelque part. Bon, je veux pas textualiser plus que ça parce que, après, voilà, quoi, c'est délire, tout le monde. Mais je savais que t'allais placer comme ça.
D'autant que le freak c'est chic comme chantait l'artiste mais et c'est encore plus chic de venir à l'Open Down ce vendredi 7 février pour voir Hague mais aussi Deadwood avec lequel on va se quitter,
oui.
D'ailleurs en te souhaitant un excellent concert ce vendredi soir.
Oh, merci beaucoup,
à très bientôt.
Oui, merci Gilou, ciao. Down in a home grows.
Et si vous n'êtes pas à l'Up and Down pour voir ce concert de Deadwood, eh bien vous serez ailleurs. Et vous serez ailleurs, vous serez où? Eh bien vous serez peut-être au Subsonic qui va fêter ses 13 ans à partir de demain, mercredi 5 février. C'est Marc qui est avec nous pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous.
Bah, bon anniversaire alors au Subsonic.
Merci, 13 ans déjà.
13 ans déjà et 13 ans de musique, de rock'n'roll, mais aussi de lutte.
Oui, beaucoup d'accords majeurs. Beaucoup d'accords majeurs au Subsonic. 13 ans de lutte et c'est pas fini.
Voilà, et la lutte, c'était notamment l'été dernier en 2013 avec la fresque qui avait été réalisée à la fin de l'été, si je me trompe pas.
Elle a été accrochée le 22 septembre, ouais. Il me semble. Oui, mais c'est aussi une manière de s'exprimer que de dessiner la musique sur les murs, par exemple. Et voilà.
13 ans d'activisme qui vont démarrer ce mercredi 5 février chez les potes du Up and Down rue du Pilat Saint-Gély avec un double concert à la fois suisse et néo-zélandais. Et hollandais, pardon.
Néo-zélandais, non, je ne pense NL. Pas.
Il non, me c'est semble. NZ, la Nouvelle-Zélande.
Exact. Non, ce sont un groupe qui s'appelle Pelvis Douglas, qui nous vient d'APT. Donc, un jeune groupe français qui fait du punk rock.
Voilà. Et il y avait les Love Cans aussi.
Et les Love Cans, qui nous viennent de la Chaux-de-Fonds, dans les hauteurs de la Suisse.
Pour du rock'n'roll garage blues.
Oui, bien trashy d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de jouer avec eux il n'y a pas très longtemps à Saint-Gallen, il y a eu à peu près 3 semaines. Effectivement, c'est bien trash, mais c'est bien comme j'aime en tous les cas, mais comme on aime au Subsonic. Un clavier, une batterie simpliste et une guitare qui nous tourne le dos souvent.
Ah oui.
Voilà, on entend bien.
Jeudi 6, ça se passera, si je ne me trompe pas, au Subsonic.
Le jeudi, donc, il y aura aussi une soirée au Subsonic, une soirée qui est plus un apéritif d'ailleurs, qui va commencer plutôt vers 18h30, 19h, uh-huh. Avec des DJ, des habitués du Subsonic. Il y aura aussi un one-man band, Mumbling Caveman, uh-huh. Un voisin du Subsonic,
oui.
Qui enregistre d'ailleurs son deuxième 45 tours hier et aujourd'hui au Sub.
D'accord.
Donc, voilà. Et le tout, donc, sous la houlette de Frankie, Lord Diabolique, notre ami de Radio Lux.
Voilà, Radio Lux, qui est une radio espagnole qui va retransmettre ce qui se passera en partie lors de cet anniversaire.
Voilà, c'est-à-dire que là, c'est une radio sur Internet qu'on peut écouter toute la journée, qui s'appelle donc Radio Lux, et qui a donc des émissions tous les jours à partir de 17h ou 18h. Et là, les 3 soirs seront retransmis sur Radio Lux, voilà.
Voilà. Et puis, ce jeudi 6, ça se poursuit.
Alors, jeudi 6, donc on sera au Subsonic, on fera des hot dogs et on écoutera de la musique. Et alors, ensuite, ça se poursuit donc le vendredi 7, ne nous trompons pas dans les dates, le vendredi 7, donc, qui est l'anniversaire officiel, donc de la signature de notre contrat au Subsonic. Donc là, par contre, on va fêter ça au Black Sheep. Donc avec 3 groupes aussi, un groupe qui nous vient d'Italie qui s'appelle les Vickers, uh-huh. Que j'ai découvert il y a peu de temps et qui fait un rock garage un peu psyché, c'est très dans ce qui se fait en Italie, c'est un groupe qui existe depuis de longues années déjà nous on aura l'occasion avec Sonic Angel d'ouvrir pour eux, uh-huh. Et on a un groupe surprise pour notre anniversaire. Donc les Arondes nous font la surprise de venir se joindre à nous.
Les Arondes, qui est un groupe...
Qui est un groupe montpelliérain, oui. Donc on n'a pas entendu parler
depuis
quelques années, peut-être 2 ans, et qui envisage donc de faire une tournée au mois de mars un peu partout en France. Et donc ils seront un peu en avant-première, on va dire, ce vendredi. Alors le tout à partir de vendredi, donc à partir de 21h au Black Sheep.
D'accord. Et puis dans le cadre de cet anniversaire, vous invitez les gens aussi à faire une création.
Oui, c'est vrai qu'on avait proposé. Le fait est que c'est toujours bien d'essayer de faire participer les uns et les autres. Chacun peut faire un montage, une affichette, un morceau, une photo. Voilà.
Une chanson, un poème.
Une chanson, un accord. majeur.
Voilà. tout ceci sera apprécié et publié sur le Facebook du Subsonic.
Tout à fait.
Si tout cela se passe bien. On rappelle que on retrouve tous ces renseignements sur lolaproduct.free.fr.
Tout à fait.
Évidemment, l'adresse du site. Et puis, vu que il nous reste très peu de temps, il va falloir faire un choix entre les Vickers et les Arondes pour se quitter. Qui allons-nous diffuser ?
Écoutons les Arondes.
Eh bien, on va écouter les Arondes en souhaitant un excellent anniversaire au Subsonic, à tous ceux qui l'aiment, qui le défendent, qui l'ont défendu et qui le défendront.
Merci de nous défendre.
À très bientôt.
À très
Marc.
Bientôt.
Salut. Et c'était ainsi, tambour battant, qu'on se referme cette auberge espagnole. Gigou, je vous remercie, vous souhaite une excellente semaine. Et remercie Bruno Bertrand qui a réalisé cette émission. Salut à tous, salut à toutes.